enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Romains 8, 29, voilà ce qu'il est écrit. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils. La volonté de Dieu, c'est que nous devenions conformes à l'image de son Fils, que nous ressemblions à Christ. C'est le troisième objectif de notre vie, devenir comme Christ. Vous savez que Dieu nous a fait à son image. Au commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il les fit à son image. Et on a vu et on sait comment, au travers de la chute du péché qui est entré dans le monde, cette image s'est dégradée. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que nous retrouvions cette image et que nous ressemblions à Christ, que nous soyons conformes à l'image de son Fils. Le troisième objectif de notre vie, c'est que nous soyons des chrétiens. Vous dire, ah, tu sais que ça, c'est facile. Ça veut dire, ça veut dire quoi être chrétien? La première fois qu'on a appelé des gens chrétiens, c'est parce qu'ils ressemblaient tellement à Christ, qu'on a dit ça, c'est des petits Christ. Des Christianos, des chrétiens. C'est ça? Vous regardez votre voisin, vous dites, ah, tu ressembles tellement à Christ, ça m'impressionne. Hein? Peut-être que quelqu'un dira ce matin, je comprends, c'est juste un objectif, mais on n'y est pas arrivé encore. Attendez, c'est un objectif, mais il faut qu'on y arrive. Dieu ne nous donne pas des objectifs impossibles. Dieu ne nous dit pas, voilà ce que je veux pour toi, mais jamais tu pourras y arriver. Dieu ne nous demande pas d'avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques, là. J'aurais du mal, hein, s'il fallait aller, s'il fallait aller à Turin gagner une médaille d'or. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande des choses possibles. Et la volonté de Dieu pour notre vie. Le premier objectif, aimer Dieu. Ça, c'est possible, ça, non? Le connaître et l'aimer. Le deuxième objectif, aimer la famille de Dieu. C'est possible, ça? Aimer la famille de Dieu. Vous avez lu tous les chapitres durant cette semaine qui parlent de la famille de Dieu, qui parlent de l'Église. Moi, j'ai été béni en lisant ça. Et je sais que c'est la volonté de Dieu. Qu'on soit là vraiment dans un amour fraternel, sincère. Nous aimant les uns les autres et étant unis les uns aux autres. Mais le troisième objectif, il est aussi réalisable, et c'est la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous devenions comme Christ. Et notez bien, si vous avez les notes de la prédication de ce matin qui sont dans le bulletin, Éphésiens 4:15 nous dit que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Que nous croissions. Il est question de croissance. Nous sommes dans une campagne de croissance spirituelle. Le but caché derrière ces 40 jours, s'il y a un but caché, c'est qu'on grandisse, c'est qu'on fasse des progrès. C'est-à-dire, on ne fait pas juste une campagne de 40 jours pour, bon, nous occuper pendant 40 jours, ça fasse un petit peu d'animation dans l'église, que ça change un peu, on sort un peu de notre routine. Non, on fait 40 jours pour que ça change, pour qu'il y ait des progrès, pour que la face de l'église soit complètement différente, pour que, comme on est au début de l'année, ça vienne influencer tout le reste de l'année. C'est vrai au niveau de l'église et c'est vrai au niveau de chacun d'entre nous. Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui peuvent dire ce matin, en ce qui me concerne, alors qu'on est déjà rendu au jour 22, je peux dire que ma vie a changé, que des choses ont changé dans ma vie, que c'est pas comme avant notre départ, notre voyage durant ces 40 jours, et que vraiment là, en 22 jours, Dieu a déjà changé tellement de choses dans ma vie, on ne va plus me reconnaître au bout des 40 jours. Est-ce qu'il y en a qui ont été changés déjà dans 22 jours? Levez la main là, que les sceptiques puissent dire, ah, Dieu fait des choses dans cette église. Alléluia. Amen. Mon troisième objectif dans la vie est de devenir comme Christ. Et vous pouvez le noter. Si vous n'avez pas de crayon, ce sera un plaisir de vous en donner un. Vous levez la main simplement et on va vous donner un crayon. On a besoin d'un crayon ici. Quelqu'un a besoin d'un stylo. Levez la main, on va vous en offrir un. Mon troisième objectif dans la vie est de devenir comme Christ. Ça s'appelle le discipolat. On a hésité à l'afficher, mais on va l'afficher quand même. Parce que c'est un nouveau mot, un néologisme, un mot qui, vous savez, c'est difficile des fois de traduire l'anglais, pour traduire discipleship. Je traduis ça comment en français? Eh bien, on traduit ça discipolat. Et peut-être quelqu'un dira, mais ce mot, il est même pas dans le dictionnaire. Eh bien, il va y arriver. Il va bientôt être dans le dictionnaire, parce que nous disons, il faut dire quelque chose. Alors, ne soyez pas surpris si vous n'avez pas entendu ce mot souvent, discipolat. Sachant que le discipolat, c'est ce processus de discipline en nous, de discipleship. Nous sommes disciples de Jésus et nous sommes amenés à être transformés de gloire en gloire pour ressembler à Christ. Un disciple, par définition, c'est quelqu'un qui suit un maître. Les disciples de Jésus l'ont suivi pendant plus de 3 ans et ils ont été transformés par cette présence avec Jésus. Et ils l'ont ressemblé. De la même manière, si nous avons Jésus comme maître, si nous voulons marcher avec lui, si nous voulons le suivre, eh bien, dans sa présence, nous allons être amenés à être transformés. Et si notre vie ne change pas, si notre caractère ne change pas, il y a un problème. Nous sommes appelés à changer. Il y a un processus. La vie chrétienne, c'est un processus de changement, de mieux en mieux, de progrès en progrès. Même l'apôtre Paul écrit à un pasteur et lui dit « Que tes progrès, Timothée, soient évidents pour tous. » Nous sommes appelés à faire des progrès, à être transformés, et à ressembler de plus en plus à l'image de son Fils. Dieu s'intéresse plus à ce que vous êtes qu'à ce que vous faites. Nous, on a l'impression que ce qui est important, c'est ce qu'on fait, c'est ce que les autres voient. C'est, voilà ce qu'on fait, c'est bon, donc il n'y a pas de problème. Non, Dieu s'intéresse davantage à ce que vous êtes qu'à ce que vous faites. À ce qu'il y a à l'intérieur, plutôt que ce qu'il y a à l'extérieur. Si à l'intérieur, il y a quelque chose de bon, à l'extérieur, il y aura quelque chose de bon. Mais si à l'intérieur, il y a quelque chose de mauvais, et qu'à l'extérieur, on essaye de faire transparaître quelque chose de bon, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Et Dieu n'est pas dupe. Les hommes peuvent être trompés. Les hommes ne verront pas la différence. Et il peut y avoir toute une hypocrisie religieuse derrière tout ça. Mais Dieu, lui, s'intéresse à ce que nous sommes vraiment. À ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. À notre caractère. Notre caractère doit devenir celui de Christ. Le discipolat, être créé pour devenir comme Christ, ça veut dire changer de caractère. On n'a pas le droit de dire, quand on est chrétien, c'est mon caractère, je suis comme ça, j'y suis pour rien. C'est pas à mon âge que je vais changer. Il y a personne qui dit ça. C'est mon caractère, moi je suis comme ça. Vous savez, moi je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est pas à mon âge que je vais changer. Si ton caractère est celui de Christ, change pas. Mais si ton caractère c'est pas celui de Christ, faut que ça change. Faut que ça change. Et on est, je suis comme ça. Ben oui, mais Dieu s'intéresse à notre âme. et il veut nous amener à changer. Romains 8, 28, juste avant le verset qu'on vient de lire, Dieu a fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Dieu veut changer notre caractère. De quelle manière s'y prend-il pour transformer notre caractère afin que nous devenions comme Christ? Le premier outil que Dieu utilise, non, c'est pas sur les diapos, le premier outil que Dieu utilise, c'est la Bible. Au travers de la Bible, Dieu nous parle et nous transforme et nous éclaire. Et si quelqu'un ne lit pas la Bible dans ce lieu, si quelqu'un n'a pas de contact avec la Bible, je vous encourage à lire la Bible. Comment devenir comme Christ si on ne connaît pas Christ? Comment être comme un modèle si on ne connaît pas le modèle? Et la Bible, c'est le livre qui nous parle de Dieu, qui nous parle de son amour, qui nous parle de Jésus son Fils qui a donné sa vie pour nous, qui nous parle du Fils de Dieu et qui nous amène à le connaître, découvrir, avoir un modèle que nous pouvons suivre. Et on peut dire après, comme l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Parce que la Bible nous présente ce modèle. On parle de l'amour de Dieu. On parle du caractère de Christ. C'est important de lire la Bible pour connaître le modèle que nous devons suivre. C'est le premier outil que Dieu utilise. Le deuxième outil que Dieu utilise, et on l'a vu durant toute cette semaine, c'est la communion, c'est les gens. Dieu se sert des gens pour changer notre caractère. Vous avez remarqué ça? Que nos défauts de caractère, que nos traits de caractère sont révélés avec des gens. Quand on est tout seul, on n'a jamais mauvais caractère. Non? Quand on est tout seul chez soi, on n'a jamais mauvais caractère. Mais c'est quand on est avec des gens. Et je parle pas de juste rencontrer quelqu'un comme ça à l'épicerie, mais quand on est avec quelqu'un un peu plus longtemps que d'habitude. Vous savez, des fois, il y a des gens, vous les rencontrez juste 5 minutes dans la semaine, puis après, vous vous retrouvez à faire un bon bout de temps avec eux. Un 24 heures, un 48 heures. Hein, un trajet, là, vous allez jusqu'à Vancouver en voiture. Vous avez le temps de connaître quelqu'un, là, et savoir quel est son bon caractère. Vous vous trouvez là, coincé dans un ascenseur, pendant plusieurs heures. Vous aurez le temps de découvrir qui est la personne, hein, qui vous a souri pourtant tout à l'heure, mais qui commence à révéler un mauvais caractère. Les gens viennent révéler notre caractère, mais viennent aussi nous aider à transformer, et dans la communion fraternelle, en étant les uns avec les autres. C'est comme ça aussi que l'on fait les progrès. Il ne peut pas y avoir de chrétien solitaire. Un chrétien n'est jamais solitaire. C'est une ineptie, c'est impossible d'associer le mot chrétien avec le mot solitaire. Un chrétien seul, moi je n'ai pas d'église, je suis seul, je suis dans ma cuisine, je vis ma foi avec Dieu, il y a un problème, je ne suis pas comme ça. Un chrétien seul, c'est un chrétien parfait. Il y a besoin des gens pour grandir ensemble. On est que dire, oui, mais les gens ne sont pas parfaits. On est tous imparfaits. Quelqu'un dira, mais l'église, elle n'est pas parfaite. L'église n'est pas parfaite parce qu'on est là. Parce qu'on est dans l'église. C'est pasteur Sam qui disait, mais j'aurais du mal à dire ça avec son accent. Si tu la trouves, l'église parfaite, n'y va pas. Parce que si tu y vas, elle sera plus parfaite. Le fait d'être avec les gens va nous amener à changer, à transformer, à grandir. J'aimerais voir ce matin avec vous 3 outils inattendus. C'est dans vos notes. 3 outils inattendus que Dieu utilise pour nous façonner, pour nous transformer, pour nous amener à devenir comme Christ. Premièrement, Dieu utilise les tribulations pour nous apprendre à lui faire confiance. Dieu utilise les tribulations pour nous apprendre à lui faire confiance. Waouh. Dieu utilise toutes choses. Dieu fait concourir toutes choses. Toutes choses concourent. Dieu les utilise. Attention, ça ne veut pas dire que Dieu les suscite forcément. Ça ne veut pas dire que Dieu les traite forcément. Ça ne veut pas dire que tout le mal, toutes les tribulations, tous les problèmes, toutes les difficultés de la vie, c'est Dieu qui nous les a mis sur le dos. Non. Mais Dieu va les utiliser pour qu'au travers de ces choses, il en ressorte du bien, pour qu'au travers de ces choses, notre caractère soit façonné à l'image de Jésus. Romains 5 nous dit, et vous avez le verset, l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Au travers des tribulations, au travers des difficultés, au travers de toutes sortes de problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie, Dieu veut utiliser ces choses pour nous apprendre à lui faire confiance. On fait confiance à tout le monde quand il n'y a pas de problème. C'est facile de faire confiance à quelqu'un quand tout va bien. Mais c'est quand il y a un problème que l'on voit réellement si on fait confiance à quelqu'un. Vous me suivez? Et au travers du problème, au travers de la difficulté, au travers de la tribulation, c'est là que Dieu nous apprend à lui faire confiance. Jésus lui-même est notre modèle parfait. Jésus lui-même a connu la tribulation, a connu la souffrance, a connu la douleur, alors que là, la veille de sa crucifixion, il est là dans le jardin de Gethsémané, il le dit dans Marc 14, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je suis là. Il commença à éprouver de la frayeur de les angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, je suis ici et veillé. Jésus a connu des temps de tribulation, des temps d'angoisse, des temps de tristesse. Et dans ces moments, c'est là qu'il est pour nous le merveilleux Jésus, le confiance qu'il a envers son Père. Il m'a jusqu'à dire si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Oui, ça c'est le sentiment qu'on fait. J'aimerais pouvoir être épargné, j'aimerais que cette coupe s'éloigne de moi. Il m'a jusqu'à dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux dire en d'autres termes, Seigneur, ma vie elle est entre tes mains. Je te fais confiance. Et c'est toi qui me conduis et qui me dirige. Non pas ce que je veux, mais ce que toi. On parlait de communion cette semaine, et notez bien que Jésus lui-même, dans ces temps les plus noirs, les difficiles, va appeler autour de lui Pierre et Jean-Pierre. Ce qu'il avait dit, il vous appelle mes amis. Et il va dire, venez avec moi. Veillez et priez. Jésus n'a pas dit, il faut que je reste seul. Il faut que je reste seul avec Dieu. C'est une affaire entre Dieu et moi, entre mon Père et moi. Il a dit, venez. Et voyez-vous, dans la communion fraternelle, il y a un soutien, un encouragement, un partage. Jésus en a eu besoin, nous en avons besoin. Il y a quelques bons conseils que l'on peut avoir concernant la manière dont Dieu utilise ses tribulations. C'est de réaliser qu'au travers de ces tribulations, Dieu nous apprend à nous faire confiance lui. Et que il est en contrôle de tout. Et que dans ces moments de tribulation, dans ces moments d'angoisse, dans ces moments difficiles, alors que nous sommes là devant sa face, que nous cherchons sa face et que nous disons Seigneur, au secours, il est là. Il est là pour nous encourager. Il est là pour nous tendre la main. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous dire, comme Jésus a pu dire à cet homme dont la fille est morte, on vient de lui dire, arrête d'importuner le maître. Ta fille Jaïrus est morte. Et Jésus lui dira, ne crains pas, crois seul. Et dans la présence de Jésus, dans cette communion avec lui, eh bien, il retrouve la foi. Et il sait qu'il va se passer quelque chose. Il est là dans un temps de tribulation, dans un temps d'angoisse, dans un temps difficile. Mais dans ce moment-là, Dieu va se servir de la mort de cette fille pour amener une grande bénédiction à la ressusciter. De la même manière pour Lazare, Dieu s'est servi de la mort de Lazare, et quelqu'un pourrait dire, et peut-être que Marthe et Marie, d'ailleurs, elles lui ont posé la question à Jésus, en disant, Seigneur, si tu avais été ici plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Lazare soit mort? Maintenant, c'est trop tard. Ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Mais au travers de cette épreuve, au travers de cette tribulation, la gloire de Dieu va être manifestée. Dieu se sert des tribulations pour nous apprendre à nous faire confiance. Et même si dans une tribulation, même si dans un moment d'épreuve, même si dans un moment d'angoisse, même si dans un moment de grande difficulté, on ne comprend pas le pourquoi, les aboutissements, et on se dit, mais semblerait que ce soit une défaite, semblerait qu'on ait perdu des choses. Paul a fait naufrage. Le bateau a été complètement broyé dans cette tempête. On pouvait dire, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu me protèges plus, et tu es avec moi. Et dans ce moment-là, on prend à faire confiance à Dieu. Et Dieu conduit sa vie, conduit ses failles. Et on sait comment Paul a fait son message pour en témoigner à cette ville de Nantes. Un conseil que l'on peut donner, c'est Rick Warren qui donne ce conseil, c'est d'écrire un journal spirituel. Écrivez un journal spirituel. Je ne sais pas si vous le faites. Pour ma part, je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de journal spirituel, mais je suis interpellé par ces paroles que je vais lire. Des fois, on dit, on garde ça dans notre tête, et c'est vrai. Et des fois, on a une bonne mémoire, hein, qu'on se souvient de ce que Dieu a placé, on dit, c'est placé sur notre cœur. Un peu comme Marie, il a dit que Marie retenait toutes ces choses sur son cœur. Bon. Mais c'est bon de noter. De noter quoi? Pas dire, cher journal, aujourd'hui j'ai rencontré un homme merveilleux. Non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de ce genre de journal. Il s'agit de noter ce que Dieu a placé sur votre cœur. Les bénédictions, les grâces, les faveurs, lorsqu'il vous a parlé. Lorsque vous êtes passé par un moment de difficulté, comment Dieu vous a secouru, comment il vous a délivré, comment il vous a protégé. Et quand un temps d'épreuve arrive, ou un autre temps d'épreuve, parce que la vie, c'est pas un tapis de rose, c'est pas un chemin de fleurs, de pétales de rose. La vie, c'est difficile. Mais que dans ces difficultés, on puisse revenir en arrière. Et le Seigneur, je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une situation très catastrophique. Et tu m'as sauvé. Je mets la paix dans mon cœur. Tu m'as délivré. C'était toi ma force. Sans toi, j'aurais pas été capable de passer au travers. Au travers d'un journal spirituel, ça va vous aider à garder les trésors et les bienfaits de Dieu et à pouvoir les réutiliser le jour où vous en avez besoin. Et ne pas oublier ce que Dieu a fait pour vous. Deuxièmement, concernant la tribulation, deuxièmement, souvenez-vous de la récompense. Il est dit dans 2 Corinthiens 4, 17, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire qu'elles nous préparent. Les détresses présentes, et notez bien, quand l'apôtre Paul parle de détresse, il s'agit de vraies détresses. Il s'agit d'être lapidé jusqu'à la mort. Il s'agit de naufrage, comme je l'ai dit. Il s'agit d'être battu, fouetté, mis en prison, d'être là condamné à mort. Je parle de ce genre de détresse, telle que nous vivons tous les jours en ce qui nous concerne à Drummondville. Non? Vous êtes éprouvé de la sorte, en détresse. L'apôtre Paul dit que ces détresses-là, elles sont légères et passagères. Passagères, parce que de toute façon, elles sont là que pour une vie, et pour la durée de la vie sur la terre. Mais après, elles sont légères. Parce que quand bien même c'est quelque chose de lourd, Dieu nous a préparé aussi. Quelque chose d'extraordinaire. Quand on a les yeux fixés sur la récompense, c'est ce que Moïse fait. Souvenez-vous dans le Coran, il est dit que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Quand on a les yeux fixés sur la récompense, eh bien, les épreuves du ciel, on n'a pas saisir les légères du Seigneur sur ses yeux. Par rapport à tout ce qu'il n'a pas entier. C'est rien par rapport à ce que toi tu as fait, et c'est rien par rapport à toute ta gloire, tous les trésors que tu m'as préparés dans le ciel. Dieu utilise donc les tribulations pour nous apprendre à lui patenter. Dieu les utilise. Il peut peut-être en susciter ta plaisir et en utiliser d'autres, mais tout ce qui est mauvais ne vient pas de Dieu. Mais Dieu nous est servi de ça pour façonner notre caractère. Deuxièmement, Dieu utilise la tentation pour nous apprendre à obéir. Dieu utilise la tentation pour nous apprendre à obéir. Ce n'est pas Dieu qui tente, c'est le diable. Dieu ne tente personne. Mais Dieu utilise la tentation pour nous apprendre à obéir. Si Dieu utilise les tribulations pour nous apprendre à lui faire confiance, la tentation nous apprend à lui obéir. Parce que face à la tentation, il y a deux choix. On dit oui ou on dit non. J'obéis à Dieu. Où j'obéis au penchant de ma chair, à la tentation, au diable. La tentation nous apprend à obéir. Dieu nous tente jamais. Alors, nous dit Matthieu 4, chapitre 4, verset 1er, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous avez remarqué que c'est l'Esprit qui amène Jésus dans le désert. Conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit, afin d'être tenté par le diable, et qu'au travers de cette tentation, il en ressorte transformé, plus fort. Avez-vous déjà expérimenté, lorsque la tentation est venue sur vous, que ça vous rend plus fort? La prochaine fois, ça en sera. Parce que dire non à la tentation, solidifier, obéir à Dieu, transforme et change notre caractère. Martin Luther, qui est à l'origine du protestantisme, Martin Luther pouvait dire, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de bâtir un nid dans vos cheveux. Quelqu'un dira, moi je ne suis pas concerné, je n'ai pas de cheveux. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Et au niveau de la tentation, attention, être tenté, ça ne veut pas dire pécher. Pécher, c'est succomber à la tentation. Jésus a été tenté. Il n'a pas péché pour autant. Le diable lui a fait des propositions. Il a été tenté. Mais Jésus a dit non. Et ce n'est pas parce que dans votre tête, il y a toutes sortes de tentations que vous êtes coupable devant Dieu. Vous deviendrez coupable si vous répondez oui à la tentation. Mais la tentation, en elle-même, c'est des oiseaux qui tournent au-dessus de votre tête. Mais ne laissez pas les oiseaux faire un nid dans vos cheveux. Comprenez? Il y a des choses qu'on... C'est le diable qui vient tenter. Et il viendra. Tout comme il est venu vers Jésus. Il est déjà venu et il viendra encore. Et comprenez qu'on est tous tentés de la même manière. Et des fois, peut-être quelqu'un se sentira coupable en disant « Je ne sens plus pas parce que des tentations, des fois je me sens attiré par certaines choses, je me sens coupable. » Il ne faut pas se sentir coupable de ça. Glorifier Dieu, de ne pas avoir succombé à la tentation. Et au travers de cette tentation, Dieu l'utilise pour nous apprendre à lui obéir et à changer. Le caractère change. Les conseils que l'on peut donner concernant la tentation, premièrement, concentrez-vous sur de bonnes pensées. Et ça, c'est quelque chose d'important. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. Concentrez-vous sur de bonnes pensées. On peut pas, quand dans sa tête, vous allez dire, oui, mais moi, je suis capable de penser à plusieurs choses en même temps. Mais si dans ta tête, il y a une pensée, il y a une tentation en disant, je me sens poussé à faire telle chose, et que dans ta tête, en même temps, il y a une pensée qui dit, moi, je veux obéir à Dieu, les deux peuvent pas cohabiter ensemble. Concentrez-vous. Gardez vos pensées sur la parole de Dieu, sur les bonnes choses, sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste. Que ce soit ça qui soit l'objet de vos pensées. C'est moi vous dire que Dieu veut vous aider à ne pas tomber dans la tentation, à ne pas succomber à la tentation. Si vous gardez les yeux fixés sur lui, s'il est l'objet de vos pensées, si vous êtes en communion, en contact avec lui, il n'y aura pas de péché. Dans le sens que vous n'avez pas succombé à la tentation. Le mari ne va pas tromper sa femme s'il a toujours les yeux fixés sur sa femme. Et s'il est toujours avec sa femme. Non. Généralement, un certain mari trompe la femme parce que la femme n'est pas avec lui. Non. Si elle était là, ça ne se ferait pas. Non, ça semble tellement simple, hein, c'est la loi de la palisse. Mais c'est pareil avec Dieu. Si on est en contact avec Dieu, si on l'aime, et si nos pensées sont sur lui, si nos regards sont avec lui, si on est en communion avec lui, eh bien, on reste fort, et s'il y a des pensées, s'il y a des tentations, nos pensées sont fixées sur lui. De la même manière, ça m'arrive, ça. Et s'il y a une tentation dans ce domaine-là, le meilleur moyen de combattre et de démêler à cette tentation, c'est la question de tout. Non? Je veux dire, j'aimerais passer du temps, hein? Et comme ça, recentrer ces pensées, et ne pas se laisser focaliser par une sorte de tentation. Le deuxième conseil, c'est de trouver un partenaire spirituel. On a vu l'importance de la communion dans les petits groupes. Est-ce que vous faites du bien dans ces petits groupes de 40 jours un seul but? C'est-à-dire, on est là ensemble. On peut partager ensemble. On peut se faire du bien les uns les autres. On peut s'encourager mutuellement. Le fait de trouver un partenaire, d'être comme redevable, et de pouvoir exprimer nos craintes, nos doutes, nos faiblesses, et de dire ensemble. On est plus fort à deux que tout seul. Et celui qui est fort ne prenne garde de tomber. Et c'est dans ce sens-là, dans cette optique-là, que les jeudis, une fois par mois, les premiers jeudis du mois, un groupe d'hommes se réunit dans cette église, qui s'appelle Nerjas, pour dire on est ensemble. Et on garde pas là nos affaires pour nous, mais on est là pour s'entraider, pour se soutenir les uns les autres, pour prier les uns pour les autres, pour être comme partenaires spirituels. Dieu donc utilise les tribulations pour nous amener à devenir comme Christ, pour nous apprendre à lui faire confiance. Dieu utilise la tentation pour nous apprendre à obéir. Et troisièmement, comme outil inattendu, Dieu utilise les offenses pour nous apprendre à pardonner. Dieu utilise les offenses pour nous apprendre à pardonner. Notez bien que dans ces trois points, Jésus est passé par là. Il a connu la tribulation, l'angoisse. Il a connu la tentation. Et il a connu aussi l'offense. Alors qu'il était sur la croix, les passants l'injuriaient, secouaient la tête. Il dit que les principaux sacrificateurs et les scribes, les anciens, se moquaient aussi de lui. Même les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Il a connu le sang. Pourtant, il pourra dire, dans Luc 23, 34, « Père, pardonne. » Car il ne savent que Dieu utilise les offenses pour nous apprendre à parler. Si on veut schématiser, on pourrait dire peut-être que Dieu utilise les tribulations et que Dieu peut susciter des tribulations. Dieu utilise les tentations et c'est le diable qui suscite la tentation. Dieu utilise les offenses et c'est ni Dieu ni le diable qui se dévoile. Il nous amène à être offensés. Et qui viennent, ils nous offensent. Et s'il n'y a pas d'offense, il n'y a pas de pardon. Les offenses nous apprennent à parler. C'est bien au travers des offenses que l'on va apprendre à parler. Il semble que dans le Notre Père, et peut-être vous avez récité quelques millions de fois, une centaine de fois, on dit quelque chose du genre, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés? Si quelqu'un avait dit, oui, comprends, oui, je le fais, mais c'est dur.
Oui, t'as pas de problème.
Eh, hey, une offense, ça offense, hein. Ça blesse, ça fait mal. Il y en a déjà qui ont été offensés dans ce lieu. Jésus, lui, a été offensé. Une offense, ça fait du mal. Ça blesse, ça meurtrit. Et Jésus va dire, pardonne-moi. Et de la même manière, nous sommes appelés, nous aussi, à pardonner ceux qui nous ont offensés. Quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qui nous offense, ça va être plus facile à parler. Mais plus la personne est proche de nous, le plus c'est difficile. Quand c'est quelqu'un de loin qui nous offense, ça fait mal. Il ne nous connaît pas, c'est pas facile. Et quand c'est quelqu'un de près, quelqu'un de proche, quand c'est quelqu'un qui est même peut-être dans les vies, un frère, un soeur, une soeur, quand c'est quelqu'un de notre propre famille, c'est quelqu'un qui nous offense. Nous sommes néanmoins appelés à pardonner. Souvenez-vous, ça va nous aider à pardonner les offenses. Souvenez-vous que Dieu nous a pardonné. Quand on se souvient que Dieu nous a pardonné, nous qui l'avions offensé, nous qui étions coupables, nous qui lui avons fait du tort, lui nous a pardonné de la grande offense que nous lui avions faite, de refuser Jésus, de ne pas croire en son Fils, quand on se souvient de ça. On dit, Seigneur, toi, tu nous as tellement pardonné. Comment moi, je ne pourrais pas pardonner une petite affaire à quelqu'un, alors que toi, tu m'as pardonné une si grande offense. Et là, il faut vraiment réaliser cette relativité. Que même l'offense la plus difficile à supporter, que même la plus grande, le plus grand outrage que jamais vous n'auriez pu avoir, ça, c'est pas grand-chose. Par rapport à l'offense qu'on avait faite. Nous avons offensé. Et peut-être quelqu'un dira, dans notre Père, on dit bien, pardonne-nous nos offenses. Nous avons offensé Dieu. Peut-être quelqu'un dira ce matin, mais moi, jamais je n'ai offensé Dieu. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de bien, quelqu'un de correct, quelqu'un de... J'ai jamais menti, j'ai jamais fait du mal, j'ai jamais volé, j'ai jamais triché, j'ai jamais allé en prison, j'ai jamais rien fait de grave. Je suis quelqu'un de bien. Je n'ai pas offensé Dieu. Et le Saint-Esprit, nous dit Jésus, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne l'offense qu'ils ont fait envers Dieu. Et de quelle manière s'y prendra-t-il? En leur montrant ce qui marque le plus, c'est-à-dire ce qui fesse le plus, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ne pas croire en Jésus, c'est la plus grande des offenses que l'on peut faire à Dieu. Refuser Jésus, c'est la plus grande des offenses. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement aimé le monde, parce que Dieu nous aime tellement, et il voit que nous sommes perdus, que le salaire du péché, c'est la mort, qu'à cause de notre état misérable de péché, à cause de ce que nous sommes, à cause de notre impiété, nous sommes coupables d'une mort éternelle. Et parce que Dieu nous aime, il envoie une solution, un médiateur. Il envoie Jésus, son propre Fils, qui va être comme sacrifice. Jésus qui prend notre place sur le bois maudit de la croix. Il meurt à l'éternité. Il se donne lui-même. Il n'était pas obligé. Il n'était pas tout à l'heure. Il se donne. Et Jésus a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Dieu a donné ce qu'il y avait de plus. Et ne pas croire en Dieu, c'est refuser Jésus, c'est maîtriser ce que Dieu a fait pour nous. Refuser ce que Dieu a fait pour nous, c'est rejeter cet amour, ce bon Christ, c'est filer à ses pieds le sang de Jésus. On connaît que Dieu a tout donné pour nous. Et refuser ce que Dieu nous donne en Jésus, c'est le sens. Mais il nous a pas donné une vie. Et il est celui qui nous accepte dans notre vie. Et quand on réalise que Dieu nous a tellement aimé, et qu'il nous a tellement pardonné, ça nous encourage, nous aussi, à pardonner que les autres ont pu nous faire. Souvenez-vous, un deuxième point, que Dieu est à la barre. Souvenez-vous que Dieu est à la barre. Dieu est celui qui dirige le navire. Même s'il y a une tempête, même s'il y a des courants, même s'il y a quelque chose de difficile, il est à la barre. De nous faire sortir de la tempête. Il y a cet exemple de Joseph qui est remarquable et extraordinaire. Joseph. Vous avez entendu parler de Joseph? Joseph, prince d'Égypte, le, c'est comment le deuxième dessin animé, le roi des rêves, là, quelque chose comme ça. Non. Joseph. L'histoire de Joseph est remarquable. Joseph a été vendu par ses frères. Vendu. Ils voulaient le tuer, mais finalement, ils l'ont vendu, ça rapportait plus. Ils l'ont vendu à une caravane qui allait en Égypte, vendu comme esclave. Et on revient dire au père de Joseph, son fils est mort, il a été dévoré par une bête féroce. Joseph se retrouve dans la maison d'un homme, Potiphar. Il est accusé de viol injustement. Et il se retrouve en prison. Quand Joseph est en prison, là encore, d'une autre injustice, il est oublié, il est abandonné. Et c'est quand Joseph arrive à l'âge de 40 ans que là, Joseph se retrouve à être le bras droit de Pharaon en lui. Est-ce que Dieu a voulu que Joseph soit au fond d'une citerne? Est-ce que Dieu a voulu que Joseph soit esclave en Égypte? Est-ce que Dieu a voulu que Joseph soit accusé à tort dans la maison de Potiphar? Est-ce que Dieu a voulu que Joseph moisisse en prison? Non! Mais Dieu a utilisé ces choses pour un plan parfait. Il est à la barre. Et ce qui est important, c'est pas ce que fait Joseph, mais c'est ce qu'il est. alors que Joseph est esclave, il a un tel caractère, un bon caractère, une telle attitude dans la présence de Dieu, une telle communion avec Dieu, que tout ce qu'il fait réussit. Il est là comme esclave, eh bien, il travaille pour un maître et il fait enrichir son maître. Quand il est en prison, au lieu de s'aider, d'être frustré, là, de dire « pauvre, misérable que je suis, qu'est-ce que je fais là ?» Il est en prison et il sert. Et il trouve faveur auprès des gardes, du chef de la prison et de tous les prisonniers. Joseph a un cœur, un caractère qui ressemble à celui de Christ. Et ça, ça glorifie. Quand il est en prison, quand il est esclave, et c'est pour ça que Joseph va être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu et qu'au travers de lui, de nombreux vies vont être sauvés. Parce qu'une famille s'en vient en Égypte et en Israël. Et parce que Joseph a un cœur, parce que Joseph a un caractère qui ressemble à celui de Christ, il est un instrument entre les mains de Dieu pour le salut d'une multitude. Et quand dans l'histoire, on retrouve ça dans Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph retrouve ses frères. Voilà ce que Joseph va dire à ses frères. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple inondé. » Et au travers des offenses que l'on peut recevoir, qu'elle soit volontaire ou involontaire. En l'occurrence, pour Joseph, c'est quelque chose de volontaire. Joseph va dire, vous aviez médité, vos projets, vos plans, c'était de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et voyez-vous, Joseph aurait pu prendre le mal et recevoir le mal dans sa vie, en être affecté, et souffrir toute sa vie de l'injustice qui lui a été faite, et finalement toute sa vie être là, amer, aigri, avec de la rancune, en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Dieu m'avait parlé, j'avais eu un songe, et voilà que je suis esclave. Mais qu'est-ce que je fais en prison? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter là, d'être en prison? J'ai rien fait, j'ai voulu être honorer Dieu, avoir un cœur droit, c'est tout. Et Joseph aurait pu là, être dans la frustration et l'amertume. Laissez-moi vous dire que c'est facile. Et il y en a peut-être plusieurs au milieu de nous qui le savent. Quand on est chrétien, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est facile d'être amer, d'être aigri, de se replier sur nous-mêmes. Mais au travers de ces offenses, Dieu veut les utiliser pour nous apprendre à pardonner. Vous allez voir quand je comprends bien. Que c'est une formation, un cours, un processus. Est-ce que ça commence par l'offense 101, mais après il y a la 201, la 301, est-ce que ça va crescendo, de plus en plus haut, de plus en plus gros, de plus en plus fort?
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.